Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. Je vous propose cette semaine un fabuleux voyage au pays des neiges éternelles du Népal en compagnie de notre amie Martine Breuillot. Martine en est à sa deuxième visite à l'émission. Lors de l'épisode du 23 janvier 2024, elle nous parlait de la marche comme source de méditation et de recueillement, tout en nous transmettant sa passion pour la randonnée en montagne. Aujourd'hui, elle nous invite à l'accompagner dans un de ses voyages organisés axés sur le yoga et la marche, dans un coin du monde où règne la simplicité et le bien-être. Nous visiterons un authentique marché népalais, irons à la rencontre de villageois dans leur quotidien et traverserons l'un des 10 000 ponts suspendus du Népal. Sans oublier quelques moments privilégiés à pratiquer le yoga au pied de l'arbre du Bouddha, face au temple de Maya Devi, lieu de naissance de Siddhartha Gautama à Lumbini. Martine nous explique enfin comment s'inscrire à ce voyage organisé à nul autre pareil, soit à l'adresse suivante alayaholidays.com. En deuxième partie d'épisode, notre serein pèlerin Michel O'Neill nous présente le plus récent bilan des fréquentations du chemin de Compostelle. Il souligne notamment une croissance exponentielle de pèlerins et de pèlerines, reflet d'un besoin grandissant de se reconnecter avec l'univers qui nous entoure, y trouver un sens qui semble nous échapper de plus en plus. Bonne écoute et bon voyage! Alors Martine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour Marcher vers le bien-être.
Merci Denis de m'avoir invité pour une deuxième fois. Et puis, comme je le vois juste derrière vous sur votre affiche, la radio, c'est aller au cœur de l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est le cœur de l'essentiel? Ça commence par l'amour. Ça peut paraître bien banal, mais aimer ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on présente, c'est pour moi l'essentiel.
C'est pas du tout banal et on le verra tout au long de l'épisode. Parlons d'abord de cette formule de votre voyage organisé qui est tout à fait unique, je pense. Vous mariez le yoga à la randonnée. Alors, donnez-nous un bref aperçu de ce voyage pas comme les autres.
Oui, c'est quelque chose que j'ai initié il y a quelques années maintenant parce que je pratique le yoga, moi, depuis 20, 25 ans même. Oh, oui, peut-être même plus. Et je compte plus les années. Et puis, je pratique la randonnée. Et puis un jour, je rencontre une professeure qui me dit « Tiens, moi je fais de la rando et tout. » Et puis dans mon esprit a germé ce souhait de vouloir mixer les deux à l'intérieur d'un même séjour.
Mmh. Parce que le yoga est un complément idéal à la marche, n'est-ce pas?
Écoutez, moi je vais d'abord vous dire où je vais faire ça. Parce que ça c'est quand même proche de là d'où vient le yoga. Donc je fais ça en Inde, au Népal. Pour l'instant, il va y avoir le Japon aussi, puis le Vietnam. Mais j'ai commencé avec le Népal, où je vais moi depuis. J'ai fait mon 17e voyage à fin 2025. Donc oui, ça marche très bien. Ça s'intègre bien. Et puis je dirais que les gens qui pratiquent cette discipline, c'est une discipline, le yoga, avec leurs professeurs, ont une prédisposition à aller dans des contrées comme celle-ci.
Mmh, oui, tout naturellement.
C'est parce que c'est des gens qui sont calmes, qui ont une quête de bien-être. Alors ça déjà, évidemment, moi ça va avec ce que je suis devenue au fil du temps, parce qu'on a nos périodes chacun, donc il y a un temps pour tout dans la vie. Et puis, j'en étais rendue là, après avoir fait des randonnées où je m'étais blessée aussi, donc je ne pouvais plus faire autant de randonnées difficiles que j'ai pu faire.
Mmh.
Et puis, de parcourant le Népal en long, en large et en travers, je trouvais que ça allait bien.
Tout à fait, oui. Et le yoga, au niveau physique, j'entends bien, nous apporte quoi? La flexibilité, le renforcement de certains muscles, ça nous amène à bien marcher.
Exactement. Parce que quand on a la chance d'avoir des professeurs, les professeurs avec qui je voyage corrigent leurs élèves. Vous savez, on peut rentrer à un cours de yoga, suivre l'enseignant, et puis on sort du cours de yoga. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui vient rectifier les positions et qui, effectivement, aussi, si on a une petite problématique au dos, à un pied, n'importe où, ça corrige et ça donne de la flexibilité dans la marche. Mmh. Donc, ça allait vraiment très, très bien ensemble. Et puis, le yoga, c'est silencieux. Hein, on s'intériorise beaucoup. Donc, pendant qu'on marche, beaucoup de gens ne parlent pas non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient nous chercher intérieurement.
Mmh.
Puis, quand on est face à des paysages ou quand on rencontre des gens qui, de façon naturelle, sont déjà toute cette énergie-là, ça ne fait que renforcer, en fait, ce qu'on vient chercher pendant un voyage.
Mais oui, et vous avez aussi une collègue ou des collègues en France?
Oui, bien sûr. Oui, parce que je vis au Québec, je me partage entre le Népal, la France et le Québec. Donc, j'ai la chance de marcher sur 3 continents et d'y développer des choses qui sont accessibles à ces trois grandes personnalités différentes, parce qu'il faut savoir adapter les voyages en fonction de la clientèle qu'on a. Hein, parce qu'on a des gens qui sont férus d'histoire, de philosophie, donc les visites, les incontournables, sont des choses essentielles à leur voyage. D'autres qui, avec une visite historique par jour, ça peut être assez. D'autres qui sont plus nature, donc là, il faut marcher dans la montagne et puis on loger dans des endroits où on est face à l'Himalaya et puis on se pâme du lever au coucher, parce que j'utilise aussi les sentiers qui nous amènent à voir ces grandes montagnes aux neiges éternelles. C'est ce qu'on dit, malgré le réchauffement de la planète, il y a encore des neiges éternelles. Mais il y a quelque chose de plus grand.
C'est transcendant.
C'est transcendant, oui. C'est absolument ça. On n'a pas besoin d'avoir une croyance particulière ou d'en avoir une. Et puis là, il y a quelque chose de naturel qui s'établit quand on arrive dans ce pays.
Alors, les participants sont membres d'un centre de yoga, c'est ça?
C'est ça. Les participants ont un professeur de yoga. Et puis, ça se fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que le professeur de yoga a une salle bien déterminée, à un point déterminé, mais va faire des cours dans des petits villages alentours d'une ville, par exemple. Alors, les professeurs que j'ai en France, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Je dis « elles » parce que pour l'instant, j'ai vu que des femmes. Mais les hommes sont les bienvenus, bien sûr. Et donc, quand je leur propose un voyage d'une durée dont elles ont besoin en fonction des vacances, des enfants, puis il faut tenir ça à jour, elles le proposent à leurs clients dans tous les centres où elles vont faire leurs cours. Ce qui fait qu'il y a des clients qui arrivent. Nous, on ne prend pas en général au-delà de 14 personnes. Après, c'est trop, les groupes sont trop nombreux. Alors, les gens ont la même prof, mais ne viennent pas du même endroit. Donc, finalement, ça fait un groupe qui se retrouve, mais qui ont l'essence de la pratique du yoga. Mmh. Et l'une d'entre elles, justement, pratique le yoga intégral. Ce que je trouve très intéressant, parce que le yoga intégral, c'est vraiment l'origine du yoga. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de variantes qui sont arrivées, puis qu'on a adapté des mouvements à quelque chose que moi, je nomme toujours un peu plus aérobie que yoga. Donc, c'est différent, il en faut pour tous les goûts. Mais j'irai, moi, davantage en allant dans ces pays-là, l'Inde ou le Népal, avec un yoga qui ressemble le plus
à l'origine,
bien sûr.
Oui, c'est ça.
Parce que...
Alors, dites-moi, comment vous choisissez le club ou les participants avec lesquels vous allez faire votre voyage?
Ça, c'est un peu le... Vous savez, là, quand quelqu'un se met sur votre chemin ou qu'une situation arrive sans que vous ayez crié gare ou lancé des messages tous azimuts, ça arrive quand ça arrive. Donc, c'est souvent de bouche à oreille. Là, il y a quelqu'un qui fait des séjours personnalisés en fonction de qui sont les clients, hein, les participants. Là, je n'aime pas parler de clients, mais des participants qui... il y en a qui peuvent avoir un problème à un genou, à une hanche et autres. Donc, on ne va pas leur faire faire un trek. Ces gens-là, ils vont être dans un groupe où ça va être plus... plus calme, où ils vont pouvoir marcher, découvrir le pays de la même façon. Hein. Ça, c'est aussi, ça fait partie du programme, mais qui va être adapté à eux. Et puis, par exemple, il y a deux professeurs de yoga qui se connaissent. Donc, quand ils ont des clients qui sont plus à même de faire de la randonnée, ils disent, va donc voir une telle. Elle part en Népal pour faire tel voyage. Donc, les gens se mixent. Mmh. Donc, et puis ils font confiance aux professeurs de yoga qui sont les références, bien entendu.
Donc les participants connaissent les professeurs de yoga
oui,
au
les
départ.
Les participants connaissent, ils font du yoga déjà avec leurs professeurs ou ils ont arrêté puis ils reviennent. Enfin bon, c'est toutes sortes d'histoires au milieu de tout ça. Et puis leur disent, ben voilà, dans une infolettre, elles l'annoncent comme elles veulent ou dans leur studio de pratique de yoga, ben voilà, on vous propose un voyage de telle date à telle date avec une agence locale et puis on a un guide francophone parce que ça pour moi c'est bien important qu'on ne passe pas par un autre langage que celle de nos participants. Donc j'ai accompagné déjà, moi, des groupes et puis j'en ai accompagné dernièrement, là, en octobre dernier, avec un guide local qui lui pratique pas vraiment le yoga, mais qui fait quelques séances avec nous quand même. Et puis, parce que ça, c'est bien aussi bien important, l'agence avec laquelle je travaille, moi, à Katmandou, c'est pour une clientèle francophone. On a des participants anglophones aussi, donc on a des professeurs de yoga locaux anglophone. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, quand j'y vais, évidemment, je fais le tour des salles de yoga, je vais rencontrer les professeurs de yoga, je rencontre les guides, je vois au fil des ans comment ils évoluent dans leurs visites, qu'est-ce qui est plus approprié pour tel groupe. Donc tout ça, ça se prépare, mais ça se prépare naturellement. Mmh. On rencontre un guide... Bon, ben, fallait qu'on le rencontre. Et puis, lui va être un pratiquant de yoga, même s'il va faire son travail de guide. Mais il peut lui-même être... Ben, on va le prendre, évidemment. Il est un très bon guide, mais on va le prendre parce qu'il pratique aussi le yoga. Voilà, donc, il va y aller aussi avec ses connaissances et puis participer aussi avec les gens qui sont avec lui.
Là où votre programme se démarque peut-être des autres, c'est que vous avez aussi, et vous en avez fait allusion, une dimension spirituelle.
Ah ben, complètement. Moi, je ne peux pas aller dans ces contrées-là s'il n'y a pas cette dimension-là. Non, c'est vraiment... puis comme je disais tout à l'heure, c'est... je devrais peut-être pas dire ça en ondes, mais moi, la première fois que je suis allée au Népal, en 2009, je débarque de l'avion, je sors de l'aéroport et je m'entends dire « Tu rentres enfin à la maison. »
Oh !
Alors, excusez-moi, chaque fois, je le dis pas souvent, là, mais il y a quelque chose qui se passe, ou parce qu'on est peut-être plus sensible, hein, parce que je suis assez sensible à ces choses-là, je suis plus sensible à ces choses-là qu'à toutes ces nouvelles dramatiques qu'on entend et puis à qui on accorde trop d'importance, à mon avis. Mais ce qui fait du bien, il faut le dire. Et les gens n'osent pas toujours. Je marche parfois ou je visite avec des gens. Des endroits où il y a l'histoire d'un dieu ou une histoire, tout simplement, qui les touche, puis je le vois. C'est discret, mais peut-être 2-3 jours après, les gens viennent m'en parler. « Oh ben là, tu te souviens, tel jour, le guide nous a parlé de ça, mais comment c'est possible ? Parce que moi, j'ai lu quelque chose et ça m'avait touché au moment où je l'ai lu. » Alors, il y a des gens qui se lâche complètement, moi, dans mes voyages.
Là, on se laisse aller. Là.
Ah oui, on se laisse aller complètement. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de « je marche plus vite que toi » ou… Non, il n'y a rien de tout ça.
Ce n'est pas une compétition.
Oh non, on ne veut pas de ça. Moi, je ne veux pas de ça. J'en ai déjà vu. J'en veux plus. Donc…
Et il y a aussi une initiation à la culture bouddhiste, à l'hindouisme, en fait, aux religions.
Il y a cette initiation-là parce qu'on vit à travers ça. Donc, quand on fait une visite, quand on va dans un petit resort, par exemple, dans les montagnes, là, le matin, évidemment, moi, je me lève de bonne heure. J'ai mon petit rideau de chambre qui est tiré pour voir le lever du soleil. Puis là, j'enfile ma doudoune, là, parce qu'on est dans les montagnes. Donc, même si c'est pas haut, il fait pas trop chaud quand même au mois d'octobre. Ouais. Et puis là, je vais frapper aux portes des chambres. Et puis là, tout le monde est en alerte. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais sortez, les montagnes sont là. Donc, il y a ça. Et puis, il y a la rencontre avec les gens. Donc, on s'en va dans des endroits où, dans ces petits resorts, où on a la chaîne de montagnes des Annapurna devant soi.
Comment on se sent?
On peut même être dans le lit, on tire le rideau, puis on les voit. Il y a quelque chose de magique. Ça fait partie de l'imaginaire des gens, ça, ces grandes montagnes. Mm-hmm. Alors, j'irai pas faire le camp de base de l'Everest, même si dans l'agence, si on le demande, on a des guides pour ça. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc, c'est pas ça que je fais. C'est beaucoup plus doux, plus calme, plus intériorisé.
Alors, les gens qui pratiquent le yoga sont sensibilisés quand même à cette dimension spirituelle déjà.
Mais écoutez, je vais prendre un autre exemple. On va à Lumbini, lieu de naissance du Bouddha. On arrive en fin de journée. Au Népal, il fait nuit à 18 heures. Alors, il est pas tard, mais on s'en va vraiment sur le site où le Bouddha est né.
Oh, merveilleux.
Il y a le temple de Mayadevi qui est là, il y a un bassin, parce que l'eau c'est très important, et il y a l'arbre du Bouddha, le banyan. Il y a une plateforme face au temple de Mayadevi et à l'arbre, et là je dis avant de quitter l'hôtel, prenez vos tapis de yoga. Mmh. Parce que... Moi, c'est les surprises qui me font du bien dans ces voyages-là. Je ne le prévois pas dans l'itinéraire. Les gens ne lisent pas forcément ça dans l'itinéraire. Mais si ça s'y prête, on a nos tapis. Et là, on a pu faire un cours de yoga, vraiment, à la nuit tombée, et devant le lieu de naissance du Bouddha. Donc, il y a des gens qui étaient très émus. Vous voyez, je vous en parle, puis moi aussi, je vois les larmes qui montent.
J'en ai des frissons moi-même.
Donc, c'est des moments comme ça. C'est en toute simplicité. Et puis après, je laisse les gens. Promenez-vous. Je vous donne 30-45 minutes avant qu'on se retrouve pour le souper.
D'absorber l'atmosphère, de vivre ce
moment. Parce qu'on y voit des gens qui ont des pratiques de là-bas.
Oui.
Alors, ils ont des rituels. Puis, les gens n'approchent pas forcément le banyan, l'arbre. Mm-hmm. Alors, moi, j'y suis allée la première. Je me suis dit, je vais leur montrer un petit peu. Et puis, un moine se tient là, en général, parce que c'est lui qui prend soin de l'arbre en question. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Et il vient nous mettre un petit bracelet. Puis, pendant qu'il fait qu'il attache un petit bracelet autour du bras, lui, il fait ses prières. Donc, j'ai vu d'autres gens me suivre. Mmh.
Vous me parliez avant d'entrer au studio d'un concept de marche intuitive où il y a quand même une certaine logique. Vous pourriez expliciter peut-être.
Il y a une logique, c'est comme le voyage que je viens de proposer qui se déroule en Inde, la logique. Moi, je sais même pas s'il faut dire logique, c'est cette intuition. Mmh. Je vais en Inde pour repérer à des endroits où on va pouvoir pratiquer le yoga, mais on va pouvoir prendre des connaissances, en fait, qui sont, je vais dire là, logiques dans le déroulement de cet itinéraire. Et écoutez, en deux semaines de temps, Shiva était là à chaque arrêt où j'allais. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Je vous dis, ça n'a aucune importance. Sauf que dans ce que les guides locaux nous disent, est-ce qu'on voit, il y a quelque chose d'intense. Puis moi, là, je voyageais avec deux Népalais, donc un hindou, qui n'en croyaient même pas leurs yeux. Ils me disaient, mais comment tu fais pour nous emmener dans des endroits comme ça? Je ne sais pas.
Vous avez un sixième
c'est
sens
là, ben je ne sais pas, je ne veux pas avoir cette prétention-là, mais il y a des choses qui se passent en voyage et puis que je garde et que je vais proposer aux gens. Parce que je sais que si moi, ça m'a fait du bien, ça a changé un peu mon regard sur l'existence, je ne peux quand même pas croire que je sois la seule. Mmh. Donc, c'est ça que je veux partager avec d'autres personnes.
Donc, vous permettez aux gens de vivre une expérience absolument unique.
Ben, on est tous différents. Donc, on ne fait qu'un, puis en même temps, on va vivre un moment qui va être identique pour tout le monde parce qu'on voit la même chose, on entend les mêmes choses, mais on va le recevoir différemment en fonction de qui on est, de ce dont on a besoin à ce moment-là.
Mmh. Oui.
C'est ça, cette croyance-là.
Oui. Alors, Martine, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Nous avons hâte de partir, mais nous prenons une courte pause musicale avant de décoller vers le Népal.
Parfait.
Alors, Martine, nous sommes prêts à décoller. Nous partons de Montréal. Parlez-nous un peu du trajet, la logistique un peu quand même, là, l'avion, l'atterrissage. Et comment ça se déroule au tout début là?
Ben, au tout début, avant de former le groupe, vous voulez dire? Ou alors on est dans l'avion puis on s'en va?
Ben, tiens, pour former le groupe, oui, parce que sûrement qu'il y a peut-être des séances d'apprentissage, de formation.
Oui, ben, pour moi, c'est toujours important de savoir qui est intéressé par ce que je propose. Donc, si on est trop loin, ben évidemment, on a toute la technologie qu'il faut pour ça. C'est un WhatsApp, c'est un Zoom, c'est tout ce qu'on veut. Mais on se retrouve un samedi, en général, ou un dimanche, selon la disponibilité des gens, avec le professeur de yoga et les gens qui sont intéressés. Alors, il y en a qui vont poursuivre, et puis il y en a qui vont se désister ou revenir l'année suivante. Mais au moins, on fait connaissance. Puis moi, c'est très simple. C'est comme là, je vous parle là, mais j'ai pas préparé quoi que ce soit. C'est simple. Et puis, ben, je sais pas les questions que les gens vont me poser. Donc, bon, ben, écoutez, la simplicité est la même dans toutes les circonstances. Si j'ai pas la réponse tout de suite, je vais leur répondre par écrit.
Oui.
Donc ça, c'est un premier contact. Et ensuite, ben, les gens vont s'inscrire. Donc, on a une date butoir, c'est sûr, hein, parce que nous, on a des fournisseurs qu'il
Absolument,
faut confirmer
oui.
aussi, donc on n'attend pas deux semaines avant. Et puis, je demande aux gens de réserver eux-mêmes leurs billets d'avion, parce que ça, moi, je ne m'occupe pas des billets d'avion.
D'accord.
Donc, en général, les groupes essaient de partir ensemble, que ce soit de Montréal, de Paris ou d'ailleurs. Et puis, mais il arrive parfois qu'il y ait des gens qui veulent arriver deux, trois jours avant le groupe,
pour s'acclimater,
pour récupérer du décalage horaire. Hein. Il y a des personnes plus sensibles que d'autres. Donc, on organise tout ça. Eux, ils organisent leurs billets d'avion, puis nous, on s'occupe d'eux. C'est-à-dire qu'à chaque arrivée, il y a quelqu'un qui va les chercher. Ça, on ne les laisse pas tout seuls dans la nature. Non, non. On peut faire 15 voyages s'il y a 15 personnes, mais on ne vous fera pas venir à pied de l'aéroport jusqu'à votre lieu d'hébergement.
Donc, il y a un point de rassemblement là-bas.
Il y a un point de rassemblement, qui est l'hôtel.
Mmh.
Et puis, à partir de là, alors, c'est sûr que je vais vous parler des gens qui partent de Montréal. C'est quand même un voyage de 22 heures, hein, avec une escale.
Mmh.
Donc, c'est long. C'est pour ça que c'est bien quand les gens peuvent, des fois, partir deux jours avant, parce qu'au moins, ils récupèrent plutôt que de partir d'emblée. Mais on part jamais d'emblée. D'ailleurs, je veille dans mes itinéraires à ne jamais partir d'emblée. Donc, on arrive, on se retrouve à l'hôtel. On fait une petite balade si l'heure d'arrivée correspond à un moment où on peut se balader. Mais c'est le lendemain matin où on se retrouve au petit déjeuner avec le guide. Et puis là, on fait le tour des environs de l'hôtel.
Mmh.
Une petite reconnaissance de Katmandou. Et puis, on peut aller dans un marché, on l'appelle Hassan Market, où c'est un marché où là, la vie, la vie, s'il n'y a pas de vie à Katmandou, il n'y en aura pas dans ce marché-là, je peux vous le dire.
Et
c'est exceptionnel,
là.
Ce marché, oui. Moi j'adore aller là parce que d'abord ce sont des villageois qui viennent parfois des montagnes, des environs de Katmandou, avec ce qu'ils cultivent, ce qu'ils ramassent, ce qu'ils fabriquent. Enfin bon, c'est des gens qui viennent de loin le matin à la 5 heures, on les voit arriver et ils s'installent.
Mm-hmm. Décrivez-nous ce qu'on voit.
Ce qu'on voit,
oui.
Alors écoutez, il
les
va y avoir sur un petit,
une
petite, il y a des boutiques où on fait les casseroles, la vaisselle. Bon, ça c'est le quartier pour ça. Il y a un quartier, on va être, ça va être un marché, les fruits et les légumes. Là, il y a une dame, elle vend des poissons. Alors d'abord, on la reconnaît pas elle, mais son étal à l'odeur que ça dégage. On va être à côté des coiffeurs. Alors les coiffeurs, il y en a qui sont carrément dans la rue. Ils s'installent, ils ont leur chaise, ils coiffent, ils coupent.
Dans la rue.
Dans la rue. Il y en a d'autres, ils vont coudre. Il y a un monsieur souvent qui sort sa machine à coudre de sa boutique, puis lui, il coud devant le temple. Parce qu'il y a énormément de temples partout. Donc, on voit ces gens qui arrivent dans le quartier, puis qui vont se prosterner devant tel ou tel temple. Parce que pour eux, c'est Shiva, parce que pour eux, c'est Bouddha, ils sont bouddhistes, ça va être Ganesh, ça va être... Mmh. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils ont déjà commencé la journée en faisant leurs offrandes chez eux. Alors, c'est souvent la maman qui se lève la première, hein, quand on a la chance d'aller voir une famille et son style de vie. La maman se lève la première, elle va aller sonner sa petite clochette, elle va nettoyer son petit autel, et puis elle va faire des offrandes, que ce soit de la nourriture, des fleurs, puis elle va prier Ganesh ou d'autres. Et puis après, la famille se lève. Voilà, donc, elle s'occupe des enfants et autres. Et c'est intéressant d'aller, moi je le fais parce que je suis curieuse puis que j'aime ça, à Hassan, à 4 heures du matin, là, il n'y a rien. Il y a les chiens qui dorment par terre. Hein, et puis tout d'un coup, là, il y en a un qui arrive avec son gros panier sur le dos, avec ses concombres. Une autre dame arrive, elle va voir ses tomates. Et puis on commence à disposer, à ouvrir. On entend les grands rideaux de fer qui se lèvent parce que on protège les boutiques. Et puis chacun a sa place. Un quartier, ça va être les machines à coudre. Moi, j'ai eu à acheter des machines à coudre pour un village que je soutenais pour que les mamans puissent faire les vêtements. Bon, là, il n'y a que des machines à coudre à perte de vue.
Okay. Mais dites-moi, ça m'intrigue, là. 4 heures du matin, vous voyez la vie qui commence à bouillonner.
Ah ben oui.
Est-ce que vous invitez les participants à se joindre à vous?
S'il y en a qui veulent tenter l'aventure, bien sûr, parce que c'est des moments, on le fait même pas chez nous,
Non.
Et puis, ça a pas, parce que des fois, on n'a pas le droit, ou parce qu'on va gêner les véhicules et tout ça. À Katmandou, on s'occupe pas de ça.
Intéressant.
Tout est simple.
Oui.
À Katmandou, au Népal.
Oui, c'est ça.
Mais celui-là, ce marché de ville, là, est vraiment, vraiment intéressant.
Alors, on va parler maintenant, on a déjà commencé, de la formule de voyage, au jour le jour. Comment ça se passe, dès le réveil, une journée, disons, dans la vie d'un participant à ce voyage?
D'accord. Eh bien, je vais prendre par exemple une journée. Bon, la veille, on est arrivé, on dort dans un monastère, hein, parce que ça, c'est une immersion que j'aime proposer, parce que les moines nous accueillent et puis nous ouvrent leur monastère. Et souvent, ils ont des salles où on peut pratiquer le yoga.
Ce sont des petites cellules, les chambres?
Non, c'est des chambres, des jolies chambres. On peut avoir quelque chose de plus minimaliste, mais on essaie quand même que les gens... Nous, c'est important que les gens dorment bien.
C'est confortable.
C'est confortable, que ce soit bien confortable et qu'ils mangent bien. Parce qu'on est dépaysés, on vit ailleurs, là, on marche, on ne mange pas de la même chose. Donc, faut pas que le système se fatigue. Donc ça, le sommeil, c'est important. On se réveille et on part chacun avec notre tapis sous le bras et je donne rendez-vous, je leur ai montré la veille évidemment, mais je donne rendez-vous à la salle de yoga qui est au troisième étage du monastère, donc du temple. Et puis là, on a une belle salle et puis le soleil se lève sur l'autre côté des Annapurna. Là, on est du côté plus où on nous dit qu'on peut voir l'Everest. Je ne l'ai pas vu encore, mais... On est vers d'autres montagnes, des monts aussi très hauts. Et puis, le premier cours commence. Alors là, on n'entend pas grand-chose. 6h30, 7h. Et puis, une fois que le cours est terminé, on retourne poser nos tapis. Et là, on va prendre le petit déjeuner.
Et c'est quoi le petit déjeuner?
Alors, le petit déjeuner, c'est assez... ça peut être... évidemment, quand on voyage avec des touristes qui viennent d'ailleurs, on essaie que ce ne soit pas des choses épicées dès le matin.
Oui. Hein? Donc, parce que normalement, ça le serait, c'est ça?
Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, oui. Mais ça peut... ça va être café, thé, on va avoir des petites crêpes, on va avoir des légumes pour les gens qui aiment quand même manger des choses salées. On ne va pas forcément avoir du fromage, mais nous, on en achète personnellement parce qu'on sait que les gens aiment ça. Oui. Donc, on achète toujours du fromage de yak.
Et ça nous prend un peu d'énergie, de protéines, parce qu'on va marcher. Là.
C'est ça. Alors ça, les œufs, il y en a tous les matins. Ça, il y a vraiment... on a des fruits séchés aussi. D'ailleurs, on fait le plein à Sainte Marquette, hein, parce que ça, c'est... Il y a vraiment des gros stands. Et puis là, on choisit ce qu'on veut. Mais il y a vraiment... J'ai jamais eu de critique par rapport à la nourriture. Là où on va, là où on tient à aller, c'est justement parce que tout correspond aux besoins.
Alors, bon petit déjeuner.
Bon petit déjeuner avant de partir, oui.
Et là,
on part. Oui, des bananes et autres, il y en a. Oui, oui. Et puis là, eh bien, on s'habille et puis on va faire une marche. Alors, on part de ce monastère et on va prendre un pont suspendu.
Alors, très haut, très suspendu.
Oui, mais j'ai déjà vu des gens, justement, qui appréhendaient... Vous savez qu'il y en a 10 000 des ponts suspendus au Népal.
10 000 ?
Et oui, alors il y a eu comme une effervescence par rapport à ces constructions-là, parce que les villages étaient isolés et que les enfants, pour aller à l'école, ou alors les parents, à un moment donné, il faut aller voir la clinique, il faut aller voir un médecin, enfin bref, toutes sortes de situations qui faisaient que c'était long et compliqué. Les enfants, ils se jetaient au bout d'une... comment on appelle ça
Une espèce de liane
Donc, il y avait tout un système qui passait au-dessus d'une rivière, mais le petit, lui, il était avec son sac sur le dos ou dans les bras, là, bien serré, et puis il traversait la rivière de cette façon-là. Donc, c'était aussi dangereux. Là, les autorités se sont dit, on construit des bons ponts.
Les ponts
suspendus, mais au moins, les motos peuvent passer dessus.
C'est très sécuritaire.
Donc on fait.
Mais certains participants appréhendent
ça. Donc, dans ces cas-là,
on peut avoir le vertige, là.
Eh bien, bien sûr, on en avait justement, et on en a toujours. Et là, c'est de parler et puis de dire à la personne, prends mon épaule et regarde juste mon épaule ou juste devant toi. Puis on parle. Alors, on s'arrête en route. Si je sens que la main se serre sur l'épaule. Mais on a toujours eu les bonnes traversées, et puis tous les gens ont été même contents de pouvoir passer ce cap-là.
Oui.
Parce que c'est souvent la peur. Hein.
Un déblocage, là.
Il y a comme un déblocage, quelque chose. Oh, je pensais jamais je pourrais
c'est
faire ça.
Ouvrage.
Mais il y a une dame même qui m'a dit, mais moi, là, quand j'ai vu dans ton itinéraire qu'il y avait un pont suspendu, j'ai failli pas venir. Et puis finalement, elle était contente d'elle.
Alors, on poursuit la route.
Voilà. On suit le petit chemin, puis on croise des villages. Évidemment, des villageois. Et puis, en octobre, c'est la période des récoltes. Mmh. Alors, c'est très, très animé dans les champs, très coloré. Et puis, les gens ont toujours le temps de s'arrêter pour nous donner un namasté. Ils peuvent nous offrir, si on est deux ou trois, c'est sûr, si on est un groupe de 15, c'est peut-être moins facile. Oui. Prendre un thé.
Un thé, ouais. Oui, oui.
Vous savez, cette hospitalité-là qu'on a perdue, nous, parce qu'il faut que ça aille vite et qu'on utilise nos voitures.
Oui.
C'est ça que ça fait la randonnée aussi.
Est-ce qu'on communique quand même par gestuelle, par...
Vous savez quoi? C'est qu'on a notre guide, nous, qui est là pour nous traduire aussi.
Oui.
Puis ça, c'est important de ne pas prendre le travail des Népalais. Hein, parce que moi, j'accompagne, mais je ne suis pas guide. Je pourrais l'être parce que je connais plein de sites et que l'histoire m'intéresse, mais je ne veux pas prendre leur travail.
Oui.
Ça, ce n'est pas le but du tout.
C'est bien.
C'est de les respecter et de leur proposer du travail.
Est-ce que vous restez un bon moment dans les villages? Vous visitez le village?
Oui, on peut. Parce que moi, je sais que j'ai une heure où je dois être à tel endroit. Parce que ce jour-là, comme on se déplace beaucoup, on se fait livrer un pique-nique. Alors, il faut quand même être là quand le pique-nique arrive. Donc, c'est mon seul impératif. Mais non, je fais mon horaire en fonction de ces arrêts-là.
Oui.
C'est trop important.
Comment réagissent les participants? Est-ce qu'ils se mêlent aux villageois?
Ah oui.
Oui, hein?
Ah oui, ils sont vraiment... moi, ceux que j'ai eus jusqu'à présent, ils ne sont pas en retrait, pas du tout. Et puis, si la dame, elle fait quelque chose, je ne sais pas, ça peut être des petites galettes ou autre, il y en a toujours un, deux, trois qui vont dire, on peut goûter. Alors, la dame, elle est toute contente, évidemment. Donc, on lui achète des galettes, puis après, on en donne à chacun. Et puis, tout est simple.
C'est ce mot qui revient toujours,
tout le temps.
La simplicité.
Moi, c'est la simplicité, puis l'authenticité. Puis pourtant, je sais que ce mot-là, est pour moi, un peu... il n'y a pas plus authentique que vous puis moi, l'un en face de l'autre, là.
C'est ça.
Donc,
oui.
Pour moi, des fois, ça n'a pas de sens. Mais c'est le moment. C'est ce moment-là qu'on prend pour avoir ce contact avec les gens. Ou alors les enfants qui vont à l'école. Les enfants qui vont à l'école, on les croise. C'est systématique, ils viennent nous voir. Puis eux, ils apprennent l'anglais à l'école. Donc, ils nous demandent d'emblée d'où tu viens, comment tu t'appelles, d'où tu viens. Bon, oui. Et alors, on leur répond évidemment, puis on leur répond en anglais, ils nous posent la question en anglais. Donc, ils aiment avoir ces quelques petits mots-là, puis comme ils pratiquent leur anglais qu'ils apprennent à l'école.
Et les participants, encore une fois, sont sensibilisés au yoga, donc un peu à la culture, à la mentalité, si je peux dire.
Ils sont sensibilisés, et puis il y a ceux qui n'ont pas forcément eu le temps de faire beaucoup de recherches avant de partir, et... qui pose beaucoup de questions parce que, à quel âge on va à l'école? Les enfants, c'est des petits villages, donc ils doivent marcher longtemps pour y aller à l'école. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et après, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils vont aider leurs parents ou ils aident les enfants plus jeunes de la famille pour les devoirs. Donc, c'est plein de questions. Et encore une fois, c'est plein de questions simples. C'est juste... ils vivent pas comme nous.
C'est rafraîchissant quand même.
Ça fait du bien parce qu'on décroche de notre quotidien. C'est ça dont les gens ont besoin. Moi, je le vois. Je le vois vraiment que c'est ce besoin de... Puis moi, je leur dis toujours, que j'aimerais que vous arriviez ici en étant amnésique. C'est pas gentil, hein? En oubliant. Parce que moi, je parle pas de travail, hein?
Tout ce
quand
que
les
l'on
gens
sait,
arrivent au Népal, en Inde, je sais pas ce qu'ils font dans la vie.
Les participants, c'est ça, oui.
C'est pas ça qui m'intéresse. Ont à se donner, là, à s'offrir là.
Et à découvrir.
Oui, et à découvrir d'eux-mêmes.
Oui.
Parce que c'est vraiment moi, je dis toujours, c'est toujours un retour vers soi, un voyage spirituel, là. Ça peut pas être autre chose.
Les participants discutent entre eux?
Ah oui.
C'est ça, ça doit être intéressant.
Oui. Parce que là, ce qui les rapproche aussi, c'est le fait qu'ils ont la même prof de yoga, même s'ils habitent dans des villes différentes.
Oui.
Donc, ils savent le yoga qu'elle enseigne. Et puis, toi, t'as déjà appris à faire cette position-là. Nous, on ne l'a pas encore apprise. Donc, c'est des échanges. Puis, il peut y avoir des couples, Ça se mixe très bien.
Il
y a des couples. Il y en a, c'est un des deux qui fait du yoga. L'autre, non, mais il a voulu venir avec sa femme.
D'accord.
Alors, il ne vient pas au cours de yoga, mais il trouve toujours quelque chose à faire. Il est heureux. Dis-moi, c'est mon temps pour moi.
Il est libre. Ou elle est libre, selon le cas.
Oui. Je suis allée sur un site là, avec le groupe. Puis ce monsieur, pour le nommer, il fait pas de yoga. Lui, il en a profité pour aller voir une petite dame, tout édentée. Puis elle lui a fait du thé. Il est rentré dans sa maison. Il était aux anges. Il savait à quelle heure on se retrouvait pour le petit déjeuner. Puis il l'avait enregistré. Alors moi, évidemment, naïve, je sais bien comment on peut communiquer, même si on ne parle pas la même langue. Il dit, écoute, j'ai pris mon programme sur mon téléphone, j'ai posé ma question, je l'ai traduite en népalais, puis je lui ai fait écouter.
Ce sont des moments qui changent une vie pour lui.
Ah oui, vraiment. Si les gens reviennent, y a quelque chose qui se passe.
Oui.
C'est comme les gens qui veulent faire Compostelle parce que c'est un ressentiment.
Oui.
Je ne parle pas forcément... de gens qui n'ont pas ils partent avec le fait qu'ils ne sont pas croyants. Non, moi je m'en vais marcher. On manque quelque chose. Si on fait Compostelle, il y a quelque chose d'autre que la randonnée, certes, mais il y a autre chose, de plus grand aussi. Forcément, on revient à changer. Moi, je ne connais personne qui a fait Compostelle et puis qui n'est pas venu changer.
Plusieurs, mais en fait, à l'émission, tous les participants, tous les pèlerins, pèlerines ont parlé, ont témoigné de leur transformation.
Ah oui, tous. Ouais. Ah oui, oui, complètement. Mais c'est, et je compare la marche dans l'Himalaya à Compostelle. Parce que bien souvent, c'est un retour à la maison, puis un changement des fois drastique de vie, de travail, de... Non pas qu'ils vont aller s'installer dans un petit village de l'Himalaya, c'est pas ça, mais il y a quelque chose dans leur vie de tous les jours qu'ils ont intégré, qu'ils n'avaient pas décelé jusqu'alors, et qui change quelque chose en eux.
Mais justement, au retour, est-ce que vous les accompagnez lors de sessions, de discussions? Comment ça se passe?
Ben là, c'était sympathique parce que quand je suis revenue du Népal, je me suis arrêtée en Normandie. Donc, comme ces groupes venaient de Normandie, tous, ils voulaient nous voir. Enfin bon, alors là, je les ai revus. Mais ce sont des gens qui m'écrivent de façon régulière. Ah, as-tu une lecture, une autre lecture, Martine, à me proposer? Est-ce que tu penses que je pourrais faire un deuxième voyage? Est-ce que... Oh là là, écoute, ça m'a toute perturbée. Là, j'arrive plus à m'arrêter. Mais les gens mettent du temps à revenir du voyage. Parce que là, ils ont pris leur temps, justement. On va trop vite. On va trop vite, on ne s'arrête pas. On lit un livre vite parce qu'il faut le lire. C'est le dernier Goncourt ou n'importe lequel. Vite. Okay. On consomme. Et c'est ce qu'on ne fait pas quand on est dans les montagnes.
C'est la simplicité, encore une fois.
Ben, c'est la simplicité, oui. C'est... Bien sûr, on peut consommer. Hein, quand on va dans un quartier de Tamel, ben là, il y a plein de boutiques. On veut acheter un bol tibétain, on veut tout ramener.
Est-ce qu'on le fait?
Vous l'avez fait, oui. Oui, oui. Et puis, c'est les unique, cadeaux de Noël là, qui s'en viennent. Alors, c'est l'occasion de...
Ben oui, oui, oui.
Bien sûr, mais il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Oui. Les gens me demandent toujours, est-ce qu'on peut avoir la démonstration des bols tibétains? Pas forcément avec la vue, en vue d'en acheter, mais de faire la thérapie par les bols.
C'est la sonorité, le son.
Oui,
là, c'est ça,
Un soir, justement, on était dans les montagnes, là, et puis parce que moi, je m'éclipse toujours à un moment donné. Les gens ont du temps libre. Puis moi, j'en profite pour aller voir ce qui se passe à côté. Et justement, je rencontre un monsieur qui donne des cours de yoga, mais il n'en donne pas ce soir-là. Parce que je me disais, la rencontre de deux professeurs de yoga de deux univers différents, ça pourrait donner un cours sympathique. Mais le monsieur, il fait les soins avec les bols.
Et
mais
ça
lui,
se passe
là, il est en train de fermer sa salle. Oh, ouais. Je dis, écoutez, moi, je suis certaine que dans mon groupe, là, j'en aurai au moins une dizaine d'intéressés. Ben, y a une personne qui n'est pas venue parce qu'elle en fait de façon courante.
Oui.
Et là, c'était pas prévu, ça.
Oui.
Et c'est ces petits cadeaux que j'aime, ça, que j'aime leur offrir.
Ah non, c'est formidable. Le temps file. Il nous reste quelques minutes. Donc, pour résumer, est-ce que les gens doivent être en bonne forme pour y aller? Ben, en fait, si ce sont des gens qui pratiquent le yoga, déjà, on peut imaginer qu'ils sont aptes.
Il y a ceux qui pratiquent le yoga, sont normalement en forme. Oui. Mais on n'a pas besoin de gens, je dis, qui font le Mont Blanc une fois par an ou qui grimpent des montagnes ou non. Non, non, parce que ça s'adapte très bien à des circuits, même si on fait un peu de marche, adapté, c'est effectivement en fonction de l'état du groupe, l'état, c'est un drôle de mot là, mais que font ces gens d'ordinaire?
Oui,
voilà.
C'est ça, oui. Comment on peut se renseigner? Parce qu'on veut partir maintenant avec vous, là.
Alors, j'aime quand les gens nous écrivent à info@alayaholidays.com.
Oui.
Et puis là, on rentre en conversation.
Martine, merci beaucoup. J'espère qu'on aura le plaisir de poursuivre la conversation.
Certainement. Merci.
À bientôt,
Denis.
Et bon voyage.
À bientôt. Merci.
Bonjour Michel et bienvenue à cette nouvelle chronique des trouvailles du Serein Pèlerin.
Rebonjour et toujours un plaisir de vous joindre et de rejoindre notre auditoire.
Alors Michel, vous nous parlez aujourd'hui de ce lieu de pèlerinage qui nous est si cher à tous, le chemin de Compostelle.
Eh bien oui, Denis, les gens qui suivent l'émission savent qu'on est très friands de Compostelle, on en parle souvent. Et dans le fond, dans une chronique précédente, la saison dernière, j'avais fait un peu un bilan de situation de la marche de longue durée au Québec. Et puis là, comme les données pour la saison 2025 sur la fréquentation des chemins de Compostelle viennent tout juste de sortir, j'ai eu l'idée de faire un peu la même démarche pour ce qui se passe à Compostelle.
Ben, c'est une excellente idée, Michel. Nous avons d'ailleurs souvent parlé à l'émission de ce pèlerinage mythique qui, en quelque sorte, déclenché depuis les années 90, un engouement mondial pour la marche pèlerine ou encore marche de longue durée. Alors, que s'est-il passé sur Compostelle l'an dernier, surtout en fonction de la baisse de l'achalandage pendant la pandémie de la COVID-19?
Bien, peut-être avant de parler de la pandémie et de l'an dernier, je voudrais dire un mot sur avant la pandémie pour rappeler d'où on utilise l'information, qu'est-ce qui nous informe dans le fond sur ce qui se passe à Compostelle. Les données qu'on utilise depuis plusieurs années, en fait depuis que le pèlerinage vers Compostelle a recommencé d'être populaire à la fin des années, début des années 90, après quelques décennies, sinon siècles de tranquillité. Les données qu'on a, c'est les données qui proviennent du questionnaire qui est rempli par les gens quand ils arrivent à Compostelle pour recevoir leur fameux document qui s'appelle la Compostella, c'est-à-dire l'espèce de confirmation de diplôme, dans le fond, qui ont complété le pèlerinage.
Mmh, oui.
Alors, c'est certain que ces données-là, on a le gros avantage de les avoir depuis les années 80. Donc, c'est toujours les mêmes données qui nous permettent de comparer dans le temps. Mais en même temps, c'est des données qui ont un très gros inconvénient dans le sens où d'abord, c'est pas tous les gens qui marchent sur les chemins de Compostelle qui se rendent jusqu'à Compostelle. Dans un deuxième temps, c'est pas nécessairement non plus toutes les personnes qui se rendent jusqu'à Compostelle qui vont chercher leur fameux document. Donc, l'avantage d'avoir ces données-là sur une longue période est un peu contrebalancé par l'inconvénient qu'on ne sait pas exactement jusqu'où c'est vraiment très représentatif de l'ensemble de ce qui se passe. Mais en même temps, disons que c'est les moins mauvaises données qu'on a. Si on regarde, en fait, avant la pandémie, à partir de ces données-là, on se rend compte que le pèlerinage vers Compostelle, en tout cas les gens qui vont chercher leur Compostelle, c'est en croissance exponentielle, en fait, depuis les années 90. Juste pour vous donner quelques chiffres, en 1990, on a émis 4882 Compostella. 10 ans plus tard, en 2000, 55 504. 10 ans plus tard, en 2010, 272 135. Et puis, tout juste avant la pandémie, on était rendu en 2019 à 347 585. Donc, on passe en une trentaine d'années de à peu près 5 000 à peu près 345 000. Il y a une petite exception à ces choses-là qui est ce qu'on appelle les années jacquaires. Les années jacquaires, en fait, c'est les années où la fête de Saint-Jacques arrive un dimanche. Et ça se produit une fois de temps en temps, à des intervalles de 6 ans, 5 ans, 6 ans et 11 ans. Et quand c'est ces années jacquaires-là, il y a une augmentation complètement dramatique, si on peut dire, du nombre de personnes. Par exemple, en 90, il y en a eu à peu près 5 000. Bien, en 93, qui était une année jacquaire, il y en a eu à peu près 100 000.
Mmh.
En 99, en fait, l'année de la jacquaire suivante, 154 000. En 2004, 179 000. Et en 2010, 272 000. Il y avait des très grosses attentes pour avant la pandémie, en fait, parce que en 2021, c'était l'année où il n'y avait pas eu d'année jacquaire pendant 11 ans. Alors là, on avait vraiment mis les petits plats dans les grands. On avait passé plusieurs années à faire le nettoyage de la cathédrale parce qu'on attendait qu'on aurait à peu près 500 000 de personnes qui iraient chercher leur Compostelle-là en 2021. Donc, avant la pandémie, une progression constante d'à peu près 13 % par an pendant 30 ans. Depuis 89. Puis, dans les années jacquaires, on a des moyennes d'augmentation de 380%. Donc, c'est un peu la situation avant la pandémie.
Ah oui, et puis est arrivée justement la pandémie qui a mis un frein à tout ça.
Effectivement, comme vous savez, la pandémie a été déclarée officiellement à des moments un peu différents selon les pays, mais autour de 2019 ou 2020. Et puis entre 2019 et 2020, ben, en fait, la fréquentation de Compostelle, il y a eu une baisse de 84 %. Donc, on est passé de 347 000 à peu près à 54 000. Le bureau à Santiago a été carrément fermé pendant 3 mois. Comme vous savez, les règles sanitaires ont été complexes, puis ils changeaient tout le temps selon le pays, selon le moment. Il y a eu pendant un temps interdiction de voyages internationaux. Pendant longtemps aussi, pendant plusieurs mois, en Europe comme ici, il y a eu des hébergements qui ont été fermés, des restaurants. Donc, finalement, la grande attente qu'on avait d'avoir une année jacquère à 500 000 de personnes en 2021, ça n'a pas fonctionné. En 2021, malgré tout, on a eu une augmentation par rapport à 2020. C'est-à-dire que on s'est rendu à 179 000 personnes. Mais c'était loin encore des 500 000 attendus. Et à la fin de la pandémie, en fait, on a essayé de. Le Vatican a fait une pause, si on peut dire, pour essayer que l'année 2021 ne soit pas complètement perdue. On a déclaré 2022 année jacquaire aussi, pour essayer un peu de motiver les gens à y aller. Et puis, la particularité, en fait, d'une année jacquaire, quand ça arrive, la fête de Saint-Jacques un dimanche, c'est qu'il y a une porte sainte qui est sur le bord de la cathédrale de Santiago qui n'est ouverte qu'à ces années-là. On a une porte sainte aussi un peu de même nature, vous savez peut-être, à Québec, là, oui. Le long de la basilique, la seule en Amérique du Nord, je pense une des seules en dehors de l'Europe. Là. Mais quand on franchit cette porte sainte-là, en fait, durant une année jacquaire, puis qu'on fait quelques dévotions complémentaires, il y a toutes sortes d'avantages pour les gens qui sont croyants reliés à cet aspect-là. Donc, même si le Vatican a fait compter comme année jacquaire 2022, ça a donné un petit coup, mais ça n'a pas non plus fait rejoindre le fameux 500 000 personnes espérées pour 2021 ou 2022. Alors, c'est certain que la pandémie a marqué, comme pour à peu près toutes les activités humaines partout sur la planète, un grand bouleversement dans notre, si on peut dire, expansion du pèlerinage vers Compostelle.
Et oui. Et que s'est-il passé depuis?
Bien là, en fait, ça a repris de plus belle au rythme d'augmentation qui était à peu près le même, là, de 13 %. En 2023, on a eu 446 000 personnes. 2024, 499 000 personnes. Là, on était pas mal sur le bord du 500 000. Et c'est juste l'an dernier, en 2025, finalement, qu'on a eu une légère augmentation, un peu moins grande que les années précédentes. Mais on est enfin passé à 530 967. Et donc, depuis la pandémie, il y a aussi quelques tendances lourdes qui avaient commencé à se manifester depuis une vingtaine d'années, qui se sont comme consolidées, la première étant l'enjeu de la féminisation. Avant, en fait, pendant très, très longtemps, la proportion entre 2005 et 2018, en fait, était toujours autour de 60-40 hommes, pour les hommes, qui ça a comme grignoté tranquillement, pas vite, avec le temps. Et puis 2018 a été la première année où il y avait autant de femmes que d'hommes, 50-50, en fait. Et 2019 a été la première année où il y a eu une majorité de femmes. Il y a eu un petit effet pandémie qui a ramené les hommes en 2020 en haut de la pile, mais depuis 2021, on a une majorité de femmes, mais en 2025, en fait, c'était confirmé là, avec pas une très grosse majorité, mais 53 % de femmes, 47 % d'hommes. Donc, une espèce de tendance très lourde à l'inversement, si on peut dire, de la popularité pour les femmes d'aller vers Compostelle.
Mais c'est intriguant, Michel. Comment expliquer ce phénomène?
Ah ben là, c'est parce que le monde est en train de rattraper le Québec, en fait. Le reste de la planète. Ben, en fait, c'est un peu en blague, mais depuis toujours au Québec, là, on a à peu près une proportion de 60 % de femmes pour 40 % d'hommes depuis qu'on ramasse des informations là-dessus. Mais dans le fond, ce qu'il faudrait probablement faire, c'est une analyse plus fine pays par pays pour comprendre probablement que le phénomène largement mondial de l'évolution de la place des femmes dans les sociétés est probablement ce qui explique ce renversement, tranquillement, pas vite. Et on sait, comme ça, je parlais du Québec tantôt, mais le Québec et la Scandinavie sont parmi les sociétés dans le monde où la place des femmes a été de plus en plus évidente. Alors, on pourrait voir avec d'autres pays, finalement, qu'est-ce qui se passe.
Très intéressant, Michel. Vous parliez de plusieurs tendances lourdes dans l'évolution du pèlerinage vers Compostelle. Y en a-t-il d'autres?
Oui, bien effectivement, un autre assez important, c'est le raccourcissement de la durée. Avant, les gens partaient pour de plus en plus d'assez longues périodes, mais là, on se rend compte qu'il y a, par exemple, une augmentation assez significative des départs depuis Sarria. Sarria, c'est la ville sur le Camino Francés, près de l'Espagne, qui est à peu près à 100 km de Compostelle et qui permet d'avoir son diplôme. Parce que pour avoir son fameux petit diplôme, il faut marcher au moins 100 km. Et il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui ne font que les derniers 100 km, en particulier des jeunes Espagnols. Un autre élément par rapport au raccourcissement de la durée, c'est que le chemin principal pendant longtemps et qui était très, très dominant, c'est ce qu'on appelle le Camino Francés, qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port et qui se rend jusqu'à Santiago, qui prend à peu près 30-35 jours de marche. Puis depuis ce temps, il est toujours aussi important, le plus important, mais tranquillement, pas vite, il y a de la concurrence avec les départs qui sont faits du Portugal, de Lisbonne ou de Porto, et donc pour des durées de marche à peu près la moitié, 2 semaines. Et donc, c'est une tendance assez lourde aussi du fait que les départs semblent, les durées de marche semblent raccourcir. Et finalement, un dernier indicateur une tendance lourde, c'est comme la sécularisation et la commercialisation de plus en plus grande des gens qui marchent sur le chemin de Compostelle.
Oui, on l'a constaté, ça. Et les gens du Québec là-dedans, Michel?
Mais en fait, ce qu'on se rend compte, même si je n'ai pas fait autant de recherches précises là, depuis la pandémie, mais à un peu fréquenté cet univers-là depuis longtemps, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes qui sont accompagnés par des petites entreprises qui proposent leurs services, comme la Tienda, par exemple, ou Botte et Vélo, avec qui on parle assez souvent. Après le creux de la pandémie, au Québec, ça a vraiment repris en 2023. Et les tendances lourdes québécoises, que c'est des femmes baby boomers qui sont les principales utilisatrices du chemin de Compostelle, se maintiennent en fait. L'enjeu du rajeunissement de la clientèle québécoise est un enjeu qui est réel. Ça ne pourra pas toujours durer que c'est des femmes baby boomers québécoises qui sont là parce qu'ils vont vieillir finalement. Et dans le fond, on se rend compte que l'Association du Québec à Compostelle qui accompagne ces gens-là a fêté ses 25 ans, on en a parlé l'an dernier. Mm-hmm. Alors peut-être qu'il y a un certain essoufflement québécois, mais en tout cas, on ne le sent pas complètement encore.
C'est tout fascinant, ça, Michel. Alors, encore une fois, merci beaucoup de cette mise au point et au plaisir de vous retrouver bientôt pour une autre de vos trouvailles du serein pèlerin.
Ça m'a fait plaisir, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Martine Bruyot et notre serein pèlerin Michel O'Neill. Merci également à Lysandre Duplé à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site Radio-VM ou en différé sur le tout nouveau site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée du maître de yoga BKS Iyengar. Le yoga est le chemin vers l'harmonie entre l'âme individuelle et l'âme universelle. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!